Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape a poursuivi mardi la réunion avec les C9, les conseils des 9 cardinaux chargés de le conseiller dans la réforme de la curie romaine. À Mauritanie, pays musulman, Mgr Victor Ndion a été ordonné évêque de Nouakchott, seul diocèse du pays. Vous l'écouterez dans cette édition. Les prêtres diocésains du Gabon en assemblée pour renforcer la fraternité et la charité sacerdotale. Clôture de la session pastorale annuelle des évêques du Congo-Brazzaville. Clôture aussi de l'assemblée épiscopale provinciale de Bukavu en République démocratique du Congo. Vous aurez les détails de tout ceci dans l'actualité de l'Église, qui nous conduira aussi au Burundi, où les évêques ont lancé un message avant les élections de 2025. En Côte d'Ivoire, les vagues de chaleur ont des conséquences sur les rendements agricoles du pays, ce qui peut jouer sur son économie. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique, qui nous conduira aussi au Mozambique et au Togo. Nous conclurons cette édition par notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Une seule activité était inscrite au programme du pape dès mardi, la réunion avec les C9, les conseils de 9 cardinaux chargés de les conseiller pour la réforme de la curie romaine. Nomination de 2 nonces apostoliques. Le Saint-Père a nommé nonce apostolique en République démocratique du Congo, Mgr Mattia Lescovar, qui est actuellement nonce apostolique en Irak. Le pape François a aussi nommé nonce apostolique en Afrique du Sud et au Lesotho, Mgr Henrik Mieczysław Jagodzinski, l'actuel nonce apostolique au Ghana. Comment être une église locale synodale à mission? C'est le thème d'une rencontre internationale qui réunira les curés en vue du synode sur la synodalité. La rencontre qui se tiendra à Rome du 29 avril au 2 mai 2024 est co-organisée par le secrétariat général du synode des évêques, les dicastères pour l'évangélisation et les dicastères pour les églises orientales. Il s'agira d'écouter et d'enrichir l'expérience synodale que les curés vivent dans leurs paroisses et diocèses respectifs, de permettre les dialogues et l'échange d'expériences et d'idées et de fournir le matériel nécessaire à la rédaction de l'Instrumentum Laboris pour la deuxième session de la 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques qui se tiendra en octobre prochain. L'actualité de l'Église nous conduit en République démocratique du Congo. Au cours de leur rencontre annuelle à Butembo la semaine dernière, les évêques de la province ecclésiastique de Bukavu ont fait une autopsie de la situation socio-pastorale des zones de leur circonscription, la partie est de la RDC. Ils constatent une insécurité endémique, la menace du groupe armé M23 et la paralysie de l'économie. La population constate aussi l'absence de l'État. Les prélats se félicitent du dynamisme du peuple des dieux et de l'héroïsme des prêtres et consacrés qui œuvrent dans ces zones. Ils appellent à restaurer l'image du Congolais déformé par le mal. Les détails avec Jean-Baptiste Malengue Kalunzu.
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Le verset 17 du psaume 118 a servi de titre au message publié par les 6 évêques membres de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu, réunissant les évêques des diocèses de Bukavu, Uvira, Kasongo, Kindu, Goma et Butembo Beni. À l'issue d'une rencontre annuelle ordinaire tenue à Butembo dans la province du Nord Kivu en ce temps pascal du 8 au 14 avril, les évêques réaffirment le respect de la dignité humaine. Ils recommandent de restaurer l'image du Congolais déformé par le mal. Les évêques du Grand Kivu rendent grâce à Dieu pour le don de la joie et de la vie. Ils épinglent notamment bien des situations et des événements qui témoignent du dynamisme du peuple des dieux et de la détermination à vivre heureux. Ils notent ainsi que presque partout, les paroisses sont créées, les églises construites, les presbytères améliorés et beaucoup d'autres édifices de services sont élevés. Mais le paysage socio-pastoral révèle aussi bien des motifs d'inquiétude, et notamment une insécurité devenue endémique avec son cortège des tueries, même en pleine journée, l'encerclement de la ville de Goma. Voilà pourquoi les évêques du Grand Kivu recommandent aux chefs de l'État et aux hommes politiques en général de retenir que la politique est la plus haute forme de la charité parce que sa finalité ne consiste pas à se servir, mais à servir les autres et la société, le peuple d'abord. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
D'un Congo à l'autre, au Congo-Brazzaville voisin, les évêques ont clôturé leur session pastorale annuelle 2023-2024, le compte-rendu de Séverin Moussavou.
Cette session pastorale annuelle de la conférence épiscopale a été une expérience majeure du partage dans un élan d'innovation pour la gloire de Dieu et le salut de tous. Durant une semaine, les évêques ont évalué les différents rapports d'activité des commissions épiscopales menées au cours de l'année pastorale écoulée afin de donner les nouvelles orientations pour le bon fonctionnement des structures de cette institution. Les échanges ont été fructueux et fraternels dans un élan de synodalité. La session pastorale s'est clôturée par une messe d'action des grâces présidée par Monseigneur Bienvenu Manamika, président de la conférence épiscopale du Congo à la grotte du centre interdiocésain des œuvres qui a abrité cette session. Dans son homélie, Monseigneur Manamika a dit:
les mots qui me viennent sont ceux d'action de grâce et de vœux de plus de responsabilité marqués de détermination et d'humilité. Les commissions ont été en général à la hauteur des attentes. Notre conférence épiscopale est consciente des enjeux de l'heure. Tous les évêques comptent sur chacune et chacun individuellement et collectivement pour refléter la foi, l'espérance et la charité voulues par le Christ Maître, Seigneur et Sauveur.
Les conclusions de la session pastorale annuelle 2023-2024 de la conférence épiscopale du Congo seront publiées dans un bref délai après approbation des évêques. Sévère Moussavo, Brazzaville pour Radio Vatican.
Au Gabon, 135 prêtres diocésains se réunissent du 15 au 19 avril à Mouila pour la deuxième édition des Journées nationales du clergé diocésain du Gabon. L'objectif est d'approfondir l'identité du prêtre diocésain et de renforcer la fraternité et la charité sacerdotale. Précision de l'abbé Jean-David Ndangandong, prêtre de l'archidiocèse de Libreville et coordinateur national de ces journées. On l'écoute.
Les journées nationales du clergé diocésain sont une réalité nouvelle que nous vivons dans notre pays depuis, c'est la deuxième édition depuis l'année dernière. Il s'agit d'un espace qui a été voulu et pensé par les prêtres diocésains pour promouvoir la fraternité et la charité sacerdotale. C'est un rendez-vous dont le but est de permettre un approfondissement de l'identité du prêtre diocésain au Gabon à partir d'une approche à la fois théologique, pastorale, mais surtout fraternelle. C'est en définitive le lieu de la redécouverte et l'approfondissement de l'identité du prêtre diocésain. À ce sujet, c'est pour moi l'occasion de préciser l'une ou l'autre chose, puisqu'on a souvent eu le sentiment que, une certaine opinion donnait le sentiment que le prêtre diocésain n'avait pas de spiritualité. Ce qui n'est pas vrai, et justement ces journées sont l'occasion non pas fondamentalement d'apporter un démenti à cela, mais pour les prêtres diocésains d'approfondir leur identité de prêtres diocésains.
L'abbé Jean-David Ndangandong, prêtre de l'archidiocèse de Libreville et coordinateur des Journées nationales du clergé diocésain du Gabon. Un an avant les élections de 2025, les évêques du Burundi appellent à la paix et au respect des libertés individuelles et collectives. Dans une instruction pastorale lue dimanche dans toutes les églises et chapelles du pays, les évêques appellent tous les Burundais et toutes les personnes de bonne volonté, responsables politiques et tous les peuples, à promouvoir une culture de paix et de justice qui garantit la participation citoyenne de tous. Actualité sociale et politique en Afrique. Au Mozambique, au moins 8 membres d'une même famille sont morts lundi dans les naufrages d'un bateau de pêche sur le fleuve Zambèze dans la province de Sofala. Annonce faite mardi par les autorités locales. 2 personnes ont survécu et 2 autres seraient portées disparues. Cet incident intervient une semaine après un naufrage à environ 1000 km plus au nord de Sofala, au large de la côte ouverte sur les canals du Mozambique, incident qui a fait au moins 98 morts, dont de nombreux enfants. Une délégation diplomatique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est au Togo depuis lundi, alors que le pays connaît des fortes tensions politiques après l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars par les députés. Cette mission vise à interagir avec les principales parties prenantes sur les derniers développements dans le pays avant les élections législatives et régionales du 29 avril 2024, a indiqué la CEDEAO dans un communiqué lundi. Plusieurs pays africains font face à des vagues de chaleur. La Côte d'Ivoire est aussi touchée. Et depuis le début de l'année, ces vagues de chaleur ont des conséquences sur les rendements agricoles du pays. Le secteur du cacao, qui est le moteur du pays, s'en trouve affecté, ce qui pourrait déteindre l'économie globale du pays. À Abidjan, les détails de Mohamed Lamine.
Entre janvier et mars dernier, la Côte d'Ivoire a enregistré des records de températures dont le pic était de 41 degrés, soit 6 de plus que la moyenne habituelle. La conséquence immédiate de cette chaleur est une sécheresse plus rude qui fait chuter les rendements des exploitations agricoles. Plus précisément, le cacao dont la Côte d'Ivoire fournit 40% de la production mondiale représente le poumon de l'économie nationale. Il contribue au PIB à hauteur de 15 à 20%. Or, selon l'organe chargé de la régulation de la filière, la baisse de la récolte cacaoyère est estimée à 25% cette saison. En novembre dernier, un rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement en Côte d'Ivoire soulignait que les secteurs essentiels à la croissance du pays étaient menacés par le changement climatique, dont la hausse des températures. Ce rapport précise par exemple que les conséquences climatiques pourraient entraîner une baisse du PIB réel jusqu'à 13% d'ici 2050, ce qui serait également un obstacle à la sortie de plus d'1,5 million de personnes de la pauvreté. Des réformes sont engagées par la Côte d'Ivoire pour contrecarrer tout ceci avec l'aide et le financement du FMI et de la Banque mondiale. Abidjan, Mohamed Lamine, Radio Vatican.
Rendons-nous à présent en Mauritanie, pays à plus de 99% musulmans. Missionnaire dans ce pays depuis plus de 20 ans, Monseigneur Victor Ndion a été ordonné dimanche évêque de Nouakchott. D'origine sénégalaise, Monseigneur Ndion devient évêque du seul diocèse de ce pays islamique où les chrétiens sont des immigrés. Même si c'est une république islamique, la Mauritanie montre une grande ouverture et une grande tolérance envers les croyants d'autres religions. C'est ce qu'a déclaré Monseigneur Ndion juste après son ordination épiscopale. On l'écoute.
C'était la première ordination épiscopale dans le pays. Le pays n'en a jamais connu. Mais aussi, à ma connaissance, c'était la première fois qu'un prêtre sénégalais a été nommé évêque d'un diocèse qui est hors du Sénégal, évêque dans un autre pays. La Mauritanie, depuis que j'y vis, ça fait plus de 20 ans, me montre, en tout cas, selon ce que je vis, une ouverture et une tolérance dans le domaine religieux. La tradition religieuse chrétienne comme la tradition religieuse musulmane y cohabitent dans une sorte de dialogue de vie réel. Il est vrai que c'est une république islamique et l'Église, dans ce sens, respecte la constitution et la législation mauritanienne. Mais cela ne nous empêche pas de vivre des relations fondées sur la fraternité universelle, sur la fraternité des enfants d'Abraham, l'islam comme la religion chrétienne, l'islam comme religion, le christianisme comme religion, se réclame d'Abraham. Et cette fraternité en Abraham, nous la vivons, en tout cas moi je l'expérimente dans la cérémonie qui nous a rassemblés. Nous avons vu la participation aussi bien des chrétiens que des musulmans, qui étaient là en tant qu'amis, qui étaient là en tant que frères dans l'humanité, mais aussi qui étaient là pour montrer cet esprit de dialogue et cet esprit de bienveillance mutuelle que nous nous vouons, en tout cas entre chrétiens et musulmans. Il faut dire que le dialogue de vie entre les religions, moi, je l'ai vécu au Sénégal et je continue à l'appliquer ici. Quant aux relations entre l'État mauritanien et l'Église, ce sont des relations que j'estime dans leur plus grande valeur. La Mauritanie et le Saint-Siège ont depuis 2016 établi des relations diplomatiques qui sont, comme je peux le dire, le résultat d'une bienveillance, le résultat d'un estime mutuelle, le résultat d'une tolérance que nous vivons depuis l'indépendance. Alors je salue ces bonnes relations qui existent entre l'Église catholique et le gouvernement et le peuple mauritanien, et je voudrais entraîner le peuple qui m'est confié comme mes prédécesseurs à cette ouverture, à ce respect mutuel, mais aussi à cette dynamique de dialogue réel pour la paix, pour le respect, pour la solidarité, pour la gloire de celui qui nous a créés.
Monseigneur Victor Ndion, évêque de Nouakchott, seul diocèse de la Mauritanie. Des propos recueillis par Marie-Pépine Matendakama. Prise des positions des évêques et vie des chrétiens dans le monde. C'est notre rubrique du jour. Jacques Ngol.
Commençons cette rubrique par l'Australie. Suite à l'agression subie par l'évêque oriental de la communauté du bon pasteur Monseigneur Marie Emmanuel dans la matinée de vendredi 15 avril alors qu'il célébrait la messe, Monseigneur Anthony Fitcher, archevêque de Sydney, a exhorté les fidèles à ne pas réagir à ces événements par la peur en évitant les lieux de culte parce qu'ils craignent des nouvelles attaques, ni par la colère en se livrant à des actes de représailles ou de vengeance. Pour Mgr Fischer, la meilleure réponse à la violence et à la peur est la prière et la paix. Appelant ainsi les fidèles au calme, les faisant savoir que les maisons de la prière sont traditionnellement des lieux de paix et de réconfort, des refuges et des sanctuaires. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrasait sous les yeux stupéfaits des Parisiens et des caméras du monde entier. 5 ans après, la réouverture se profile à l'horizon décembre 2024. Depuis 5 ans, plusieurs initiatives missionnaires ont voulu transformer la stupéfaction devant les flammes en une prise de conscience du trésor spirituel que représente Notre-Dame de Paris. Noémie Tessier d'Orfeuille, jeune professeure de 25 ans, organise depuis 3 ans le pèlerinage Pierre Vivante à Paris en hommage à Notre-Dame. Elle témoigne de la force d'attraction de la figure de la Vierge Marie, la nécessité de poursuivre cet élan missionnaire alors que se profile la réouverture en décembre prochain. On l'écoute.
Notre-Dame a quelque chose, j'allais presque dire, qui flatte, mais elle est belle, on en est fier, etc. Donc c'est assez facile en fait qu'une certaine partie, en tout cas de l'Église catholique, se sentent prises d'un certain élan. Et en même temps, c'est pas du tout le cas de toute l'Église. Je pense que les premiers passionnés par Notre-Dame sont d'ailleurs pas des chrétiens, sont plutôt des gens passionnés par cet édifice. Derrière Notre-Dame de Paris, il y a tout simplement, et elle est pas vraiment cachée, mais il y a Notre-Dame, il y a la Vierge Marie. Et elle, par contre, elle ouvre toutes les portes. Alors c'est très long d'aller ouvrir les portes. Mais je crois qu'on a découvert à quel point la Vierge Marie, qui est quand même un trésor de l'Église catholique en particulier, on a découvert à quel point Marie était vraiment cette étoile de l'évangélisation, cette porte grande ouverte qui nous mène au Christ. Et moi, c'est ça qui me touche le plus et qui m'appelle énormément à continuer de servir la cathédrale. Mais vraiment, derrière la cathédrale, il y a cet acte de foi, Marie qui rassemble ses enfants.
La conférence épiscopale polonaise a encouragé la marche nationale pour la vie qui s'est déroulée à Varsovie dimanche 14 avril sous le slogan « Vive la Pologne ». Cette manifestation a permis d'exprimer l'affirmation de la vie, mais aussi l'opposition au projet de loi visant à élargir l'accès à l'avortement et par conséquent à réduire la protection des enfants à naître. Avant l'avènement, le président de la conférence épiscopale des évêques polonais, l'archevêque Tadeusz Woda, a exhorté les catholiques polonais à consacrer cette journée à la prière pour la défense de la vie. Notre marché est une affirmation de la vie, une affirmation de la famille, une affirmation de tous les droits fondamentaux de chaque être humain, a-t-il déclaré, assurant que face à cette révolution qui avance comme un bélier qui veut limiter les droits des parents et des droits des personnes à la vie, cette marche représente un signe fort de défi pour contenir l'effondrement démographique. Dans le cadre des célébrations du 8e centenaire des stigmates de Saint-François d'Assise, des centaines de jeunes se sont réunis à Florence en Italie pour regarder l'avenir à travers les yeux du grand saint. Ces jeunes rassemblés à Florence tentent de percevoir pleinement l'héritage de Saint-François, le faisant à travers le dialogue avec les autres générations. Du 8 au 11 avril, les évêques du Portugal se sont réunis à Fatima dans le cadre de la première réunion de l'Assemblée plénière 2024 de la Conférence épiscopale portugaise CEP. Selon le communiqué marquant la fin de cette assemblée, les évêques ont approuvé l'attribution d'une compensation financière à titre complémentaire aux victimes d'abus sexuels sur les enfants et des adultes vulnérables. Selon ce document, les évêques ont également abordé la réalité des migrants en soulignant la nécessité d'aller au-delà des réponses d'urgence et en insistant sur la disponibilité des institutions ecclésiales qui ont une grande expérience dans l'accueil, la protection, la promotion et l'inclusion des migrants et des réfugiés selon le communiqué. Une réflexion basée sur la complexité sociale dans laquelle vit la société portugaise, avec des inégalités criantes, des crises successives et des niveaux de pauvreté croissante aggravant les conditions de la vie déjà difficiles des familles, ont également été abordées.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. C'est bon.